Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Les processus de création, c'est toujours chaotique, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. J'aime bien l'idée que Léonard de Vinci, il regarde la Joconde en faisant « Putain, j'ai raté le sourire ». Et que deux siècles plus tard, « Regardez le sourire de la Joconde, c'est exceptionnel, mais comment il a fait ?» Ouais, et que le gars, en fait, c'est pas un chat qui passait, il a fait « Ah, putain !»« Ah, vas-y, ça me saoule, je vais laisser comme ça. » Il y a plein de trucs, nous, on le sait, sur scène, comme ça, un spectacle vivant, c'est pas une peinture, nous, qu'on fait. Il y a énormément de choses qui nous viennent par accident.
Il nous vient tout droit du Wokistan, diront certains. Il est humoriste, il est casse-cou et il est l'un des chroniqueurs phares de France Inter grâce à ses micro-trottoirs. Guillaume Meurice est mon invité dans ce nouvel épisode. Je pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter, mais sait-on jamais. Guillaume Meurice, c'est plusieurs spectacles, c'est des chroniques, c'est un podcast pour Spotify. Meurice recrute et pas mal de bouquins, dont un des derniers en date, Petit éloge de la médiocrité, où il revendique le fait qu'il est tout à fait médiocre, et on l'est tous concrètement, mais c'est pas grave. Le vrai problème, il vient de tout ce qu'il y a autour de nous et qui ne nous laisse pas accepter justement qu'on n'a pas toujours besoin d'être bon. Donc il revient sur les notions de compétition, de productivité, sur les livres de développement personnel et sur la binarité entre réussite et échec. Après cette lecture, forcément, j'avais plein de questions. Donc on s'est posé ensemble pour parler de tout ça et de plein d'autres choses. De pourquoi il était assez sûr de lui quand il a commencé la scène, de l'importance de la coopération et du fait d'ailleurs qu'il a triché comme un porc pour avoir son diplôme. De la fois, une marque de bagnole lui a proposé 20 000 euros pour jouer 30 minutes, de ce qui semble être sa vocation première, jouer comme un enfant tout le temps, de comment il vit le fait que certaines personnes aient envie de lui péter la gueule. Une fois n'est pas coutume, on a aussi parlé d'actu et de l'impact des manifestations actuelles en France. Et puis il me raconte un de ses plus gros bides en première partie de Tex. J'espère que ça vous plaira. Bon, la médiocrité.
Oui.
Comment
c'est
ça
pas
se
mon
passe
nom, hein, attention.
Ah, pardon,
non, non, non. Ouais. Comment ça se passe, la médiocrité? Mais alors, on n'est pas bien là,
on
dans
pas
notre
bien,
médiocrité
là, entre médiocres.
Ouais.
Non, elle est partie d'où cette idée de faire une éloge? Un éloge, je ne sais jamais. Un éloge.
Elle est partie d'une proposition des Pérégrines, déjà, qui sont les éditrices du livre, qui voulaient me faire un petit éloge de la mauvaise foi. Alors, j'étais vachement surpris. Parce que qu'est-ce que j'ai à voir avec la mauvaise foi, moi? J'étais vexé. Non, et puis, non, je trouvais le sujet intéressant, mais je trouvais pas trop comment développer ça. Et je leur ai dit, par contre, j'ai une autre idée. Ça fait longtemps que je me trimballe dans ma tête, dans mon petit cerveau, cette idée que la médiocrité est sous-évaluée. C'est un peu un pléonasme, mais c'est vrai que quand on dit de quelqu'un qu'il est médiocre, c'est rarement pour lui faire un compliment, quoi. Et moi, ça m'a toujours paru bizarre, parce qu'on est tous médiocres, on fait tous comme on peut, on se sent tous nuls, et quelle que soit l'échelle à laquelle on se place sur, je sais pas, sur l'espèce de hiérarchie sociale bizarre dans laquelle on vit. Et donc, je leur ai dit, je développerais bien ça sur 200 000 signes. et je me suis bien amusé à écrire ça, ouais, à décrypter la médiocrité, à aller chercher la médiocrité qui est en nous.
Mais surtout que médiocrité, on voit ça de manière très péjorative, mais ouais, de base, c'est juste être moyen.
C'est ça, c'est être moyen. Puis tout le monde est moyen, quoi. Tout le monde rate, tout le monde... Enfin, en permanence, quoi. Je suis même sûr que, tu vois, les Léonard de Vinci ou quoi, ou Michel-Ange, ils regardaient leur truc en disant « Ah, merde, j'aurais mieux fait de faire comme ci et comme ça. Ah, tant pis. Puis je laisse passer, c'est normal. Ça fait partie déjà du processus créatif, ça fait partie tout le temps, quoi. Enfin, je sais pas, après, est-ce que toi, t'es satisfaite après chaque chronique?
Évidemment.
Tu te dis,
c'est génial. Je me dis, mais c'est le sommet.
J'ai donné le meilleur de moi-même. Non, mais c'est normal, ça. Et le, ne pas accepter ça, ça m'a toujours paru un petit peu bizarre. Et les gens qui se placent en dessous ou au-dessus des autres, ça m'a toujours paru bizarre aussi. Tout ce qui est vertical, en règle générale, ça me paraît bizarre. Les classements verticaux de choses, la compétition m'emmerde un peu, donc tout ça, tout, voilà, tout ça.
Tu disais parce que t'es le dernier choisi en sport.
Mais même pas. Mais même pas, j'ai fait du sport, mais j'étais moyen, quoi. Non, je peux pas dire vraiment que j'ai fait du sport, j'étais gardien de but au football. C'est pas considéré comme sportif, ça, normalement.
Bah ouais.
C'est vraiment le gars qui veut pas courir.
Ouais, j'avoue. Mais ouais, justement, t'as une comparaison entre les humoristes et les gardiens de but.
Ah ouais, c'est vrai, ça, oui. Ah, dis donc. Où est-ce que j'ai déjà raconté ça?
Aucune idée, mais j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses.
Ben c'est l'aspect solitaire de la chose, en fait l'aspect solitaire dans le collectif. Parce que quand t'es humoriste, tu fais du one-man show sur scène, dans la salle, dans la pièce, bah t'es, je sais pas, 200, 300, 500, 1000 ou plus, mais t'es quand même tout seul, quoi. T'es quand même tout seul à assumer, c'est toi qui conduis la soirée, si ça se passe pas, il y a de grandes chances que ce soit de ta faute.
C'est pour ta gueule, hein.
Voilà. Et bah, sauf s'il y a un incendie ou quoi, mais bon, en règle générale, voilà. Et quand t'es gardien de but, bah c'est pareil, t'es dans le collectif, mais t'es quand même tout seul. Si tu fais une connerie, ça va se voir immédiatement. Tout le monde va te regarder. Donc voilà, il y a une espèce de point commun. Et j'ai toujours été comme ça, moi. J'ai jamais eu vraiment de bande de potes attitrés, par exemple quand j'étais ado. Mais j'ai toujours eu plusieurs bandes de potes en même temps. Et puis un peu l'élément. Volage, quoi. J'étais jamais tout le temps avec les uns ou tout le temps avec les autres. Voilà, j'ai toujours eu ce truc avec la marge, quoi. Avec le fait de pouvoir aller partout et d'être mouvant. J'aime bien
mais
ça.
Mais c'est un truc qui te plaisait ou que tu subissais?
Ah non, ça me plaisait de ouf. Non, ouais, j'aimais bien la liberté que ça confère, quoi. Mmh. Et je me sens encore un peu toujours comme ça, quoi.
Maintenant, t'es quand même très associé à la même bande depuis des années.
Ouais, mais je suis toujours chroniqueur, quoi. Donc, j'ai pas énormément de responsabilités dans cette émission, à part faire.
T'es le sous-fifre.
4 minutes 30 de chronique, et ça me va bien, quoi, de pas avoir de responsabilité là-dedans, finalement.
Fair enough.
Voilà.
Et quand t'étais enfant, t'étais 10 sur 20 ou t'étais.
Ben, quand j'étais gosse, je suis issu d'une famille un peu de mai 68, tout ça, avec des parents. Bah cool, genre on n'avait pas la télé, donc j'ai tout de suite, enfin j'ai appris rapidement à lire, donc je suis arrivé à l'école avec pas mal de bagages socioculturels, pas dégueu, quoi. Donc je foutais rien, mais j'étais assez bon élève jusqu'au, je pense à la moitié du collège. Dès qu'il fallait pas bosser, c'est bon, quoi. À partir du moment où il a fallu bosser, comme j'étais habitué à rien foutre, ça a décliné jusqu'au bac où j'ai raté mon bac. Je l'ai eu en deux fois. Et donc non, j'ai jamais été un gros bosseur à l'école. Mais par contre, j'ai toujours eu ce truc avec la hiérarchie, par exemple. Ça vient de là un petit peu, quoi, le rapport d'autorité. Jamais compris la nécessité d'avoir un dominant qui t'apprend des choses, quoi. Tu dois fermer ta gueule pendant une heure, ingérer des choses. Par exemple, il y a un truc très intéressant, je digresse un peu, on a le droit de digresser.
Vas-y.
Pablo Servigne, il dit ça. Il dit, c'est marrant, à l'école... quand un élève triche, ou en tout cas quand quelqu'un aide un autre élève, c'est sanctionné. Mmh. Alors que ça s'appelle de la coopération, et sans ça, on serait certainement plus sur Terre déjà. Et c'est l'inverse de ce qu'on va en tout cas retrouver à l'âge adulte, quoi. On va avoir besoin de coopérer toute notre vie. À l'école, c'est vu comme quelque chose de négatif. Ça m'a fait cogiter, je dirais. Il est pas con, c'est Pablo Servigne. Allez lire Pablo Servigne. Ou écoutez-le.
Toi, tu trichais?
Ah ouais. Ah ouais. Tu veux des anecdotes? Est-ce qu'il y a des anecdotes dans ton podcast? J'ai beaucoup triché, j'ai un DUT de gestion. Ouais. Alors ça, bon, parce que je savais pas quoi foutre après le bac, voilà, j'ai suivi des potes pour aller vite. Et donc j'allais jamais en cours, on faisait la fête tout le temps, c'était à Besançon, ville sympathique, étudiante. Mmh. Et tous mes profs pensaient que j'allais me planter, quoi. Seulement, on avait organisé avec des copains un petit système de triche. Je sais pas si t'as vu les sous-doués passent le bac ou ce genre de truc.
Non.
Voilà, comme son nom l'indique, des sous-doués qui passent le bac. Et ils ont inventé plein de choses pour tricher. Des faux doigts où ils mettent des antisèches sous les semelles et tout. Et nous, on avait tout un truc comme ça, même un poil plus perfectionné qu'eux. On mettait dans les armatures de table des cours photocopiés en tout petit. Je dis nous, parce qu'on était plusieurs dans le coup. Et j'ai eu le diplôme, j'ai un DUT de gestion, mais je l'ai eu vraiment en trichant, mais comme un sagouin. Et comme je suis devenu un peu le gars connu de l'IUT, c'était un DUT donc, ils m'ont invité pour faire la remise de diplôme. Genre, ça fait une petite animation, tiens, c'est rigolo. Mais entre-temps, ils sont tombés sur une interview où je racontais ça. Et ils m'ont recontacté en disant « Ah non, on est désolé, mais là, on va pas pouvoir assumer ce que t'as dit. Oh » Et merde. C'est con parce que moi, j'avais prévu de remettre mon propre diplôme. De dire, bah, avant de commencer la cérémonie de remise des diplômes, au nouveau, je tiens à vous ramener ça parce que je vous l'ai volé il y a X années. Et bon, bah, j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà. L'anecdote se termine un peu en eau de boudin, mais ça m'aurait bien fait marrer de le faire. Quoi.
Et ça t'a servi à quelque chose ou pas ce
m'a servi à rassurer mes parents, ce qui n'est pas dégueu dans la vie. Ouais, ils n'étaient pas particulièrement inquiets, mais comme je n'ai jamais trop su quoi faire, j'ai jamais eu trop eu d'ambition ni d'objectif. Je pense que quand même, ils me le faisaient pas sentir, mais ils devaient se dire, mais qui est-ce qu'il va faire celui-là? Donc là, ils se sont dit, il a un bac plus 2 de comptabilité, tu vois. Il pourra trouver une place de, un peu n'importe où, ça devrait le faire.
Et toi, ça t'a rassuré aussi ou je...
Pas spécialement, mais j'ai jamais été très inquiet, moi.
Ah non?
Non. Et c'est rigolo, j'ai revu des copains de fac, il n'y a pas d'enfance, même il n'y a pas longtemps. Et on se disait, mais on s'en foutait à l'époque, quoi. Jamais on s'était mis autour d'une table en se disant qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, où on se voit et tout. C'est vrai que on était une espèce d'insouciance. Pourtant, on n'était pas des familles de bourges, quoi. On était un peu classe moyenne basse, quoi. Et ouais, c'est étrange. J'ai du mal à me remettre dans l'état d'esprit de ces moments-là, quoi. À part que je pense qu'on était heureux, on se marrait entre nous. On devait être un peu chiant en cours pour les profs, j'avoue.
Oui, t'avais l'air d'un gamin de merde, alors que c'est juste que l'autorité, ça n'a pas de sens.
Ouais, l'autorité, pour moi, ça a toujours été compliqué. Ouais.
Et aujourd'hui, t'es plus stressé aujourd'hui, t'es plus à te dire, OK, c'est quoi la suite ou...
Non, ça va pas changer. Non, moi, j'ai jamais été stressé. Hein. Non, je vais un peu où le vent me mène. Non, j'ai pas. Si on me disait, par exemple, la radio ou quoi, ça s'arrête demain, je pense que je ferais autre chose ou je sais pas, j'ouvrirais une crêperie, j'en sais rien. Mais ça, en fait, ça. Mon bien-être est indépendant de mon parcours professionnel, ça c'est sûr.
Ah ouais?
Ouais. Même, tu vois, pendant le confinement, il y a eu tout ce truc, ouais, j'ai besoin de la scène pour vivre et tout. Et moi, dans ma tête, je me disais, waouh, ben, je vous plains, quoi.
Ouais, mais pour moi, les gens qui disent j'ai besoin de la scène, ils ont surtout besoin d'une thérapie. En fait.
Je crois aussi.
C'est pas normal.
Mais je pense qu'il y en a qui confondent, mais ceci dit, je comprends après. Enfin, je comprends. Chacun. C'est un métier bizarre, hein, quand même. C'est-à-dire, convoquer les gens, les faire payer, leur dire fermez-la pendant 1h30, regardez-moi et rigolez. Il faudrait quand même faire un petit feedback là-dessus.
C'est pas si loin d'être prof en vrai, hein.
Ouais, il y a de ça. Ouais,
si tu rajoutes les blagues.
Ouais. Un prof, on est des profs rigolos, tu crois?
Enfin, qui n'ont aucune autorité.
Ouais, c'est
on
ça.
On est stagiaires.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Du coup, si t'es pas stressé, c'est quoi ton rapport au doute?
Alors, mon rapport au doute. Il est, c'est pareil, j'ai envie de dire qu'il est un peu comme tout le monde. Je crois pas aux gens qui sont sur deux, moi. En fait, les gens qui sont sur deux, je vois qu'un gars qui lutte contre le doute. Genre, on va pas citer d'entrée de jeu Emmanuel Macron, mais trop tard, c'est fait. Je vois qu'un gars qui surjoue ça, quoi. Et que s'il s'arrêtait 5 minutes et que s'il réfléchissait à ce qu'il fait et à ce qu'il a, il paniquerait complètement. Donc, il surjoue le côté, vous inquiétez pas, je suis sûr de moi, suivez-moi. Ça va bien se passer, d'ailleurs, ils disent. Donc moi souvent, comme tout le monde, j'ai envie de dire, je doute, je me dis, ah, voyons voir comment ça pourrait être autrement. Mais souvent je m'en fous. D'où le fait que je sois pas tant stressé. Je m'en fous parce que je sais que de toute façon ça sera pas parfait. Je vise pas un truc qui est censé être excellent ni exceptionnel. Et j'ai de la chance parce que je suis humoriste et je suis pas chirurgien.
Ouais,
donc a priori, c'est pas très grave. C'est juste un peu ton amour propre qui prend cher, mais bon, ça devrait aller quand même après, quoi.
Des fois, il prend cher?
Oh, bah, les bides et tout, ouais. C'est marrant, des proches, ils disaient que c'était la quintessence de la solitude. Et c'est pas faux, hein. C'est pas faux, c'est un peu comme un cadeau. Tu fais, je vous ai préparé un cadeau ou un gâteau. Et les gens te le lancent à la gueule. Tu fais, bon, j'ai un autre gâteau. mais
là,
après, ça passe, hein, quand même.
Tu bides encore?
Ben, un peu moins, parce que maintenant, les gens, quand même,
ils savent ce qu'ils vont voir.
Alors, si, ça peut arriver, mais tu dois connaître ça aussi. Les salles d'abonnés.
Ouais.
Les gens, voilà. Ah, j'ai eu un texto d'Emeric Lompré il y a pas longtemps là, qui m'a dit mais est-ce que t'as déjà joué là? Mais enfin, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Et j'ai dit mais c'est des abonnés. Il me dit bah ouais. Oui, donc ils ont coché la case humour en début de saison sans faire gaffe à ce que c'était. Encore moi, ça peut passer, mais quand c'est Emeric
Lompré, ça peut
c'est
surprendre.
C'est plus compliqué, quoi. Donc oui, ça arrive qu'il y a des salles un peu plus dures, mais on connaît tous ça.
Ouais.
Mais c'est pas grave, c'est plutôt rigolo. Bah au début, tu prends cher. Moi, je vais pas faire le vieux con, mais quand bah du coup, je vais le faire. Quand j'ai commencé, il y avait Billard et Duc. C'était quasi le seul truc de réservation de spectacle à Paris. Et les critiques, elles étaient placées par ordre chronologique. Enfin, inversement chronologique. Donc la plus récente était au début, quoi. Donc quand t'en avais un qui t'allumait, une critique qui t'allumait, bah ça te vidait ta salle, quoi. On jouait devant 15 personnes. Et rien était là. Donc là, commencé à y avoir des fausses critiques. Les humoristes qui créaient des faux comptes pour mettre spectacle génial. Ouais, allez-y. Après, Billard et Duc a essayé de réguler ça. Enfin, c'était le bordel. Mais ouais, parfois, ça a des conséquences quand même, ouais.
Pourquoi t'es allé vers la scène à la base?
Honnêtement, je saurais pas te dire. J'ai pas eu de déclic. J'étais un gamin turbulent, bah, comme je te disais, un peu rapport compliqué à l'autorité. Et je pense que ma mère m'a pas mal dit, tu devrais faire du théâtre.
Comme ça, tu feras le pitrailleur.
Ouais, c'est un peu ça. Ça te canalisera au genre de truc, tu vois. Et moi, pour moi, le théâtre, c'était les photos de Gérard Philippe dans les bouquins d'école, là. De Le Cid, tu sais, en cours de français.
Je n'ai aucune des rêves que tu viens de citer.
En cours de français, quand t'as des textes de théâtre à étudier, t'as toujours des photos dedans. Okay. Gérard Philippe, c'est un vieil acteur français, tu sais, costume d'époque. Paraît-il très fort, et c'est pas la question. Sauf que moi, ça me donnait pas envie de me foutre en costume d'époque et pour déclamer un texte, quoi. Je me disais, si c'est ça le théâtre, en gros, non, ça m'intéresse pas trop. Et puis, j'aimais quand même déjà bien les humoristes, donc je retenais quand même les sketchs, avec les fameuses phrases, ah bah, ça rentre mieux que les leçons, ça. Voilà, ce genre de choses, j'ai beaucoup entendu de ma jeunesse. Et, après ce DUT là, j'ai fait une licence à Aix-en-Provence. Là, je te passe les détails parce que j'étais fan de foot à l'époque et je voulais aller voir des matchs au stade Vélodrome à Marseille. C'est pas très glorieux, hein, mon parcours.
Et c'est pour ça que t'es allé là.
Voilà. Et donc c'était un peu mon rêve de gosse pour le coup. C'était plus
moi,
ça.
Moi, je me pensais grave quand j'acceptais des dates à Lyon pour aller voir l'OL.
Et ben voilà.
Mais toi.
Ouais, mais moi, je faisais des trajets Besançon-Marseille pour aller voir des matchs. Hein. Et là, je suis allé voir il y a une semaine. Je me suis fait un kiff revival. Je suis allé voir Marseille-Strasbourg en Vélodrome. J'étais là, j'ai 14 ans, c'est ouf. Mon moi de 14 ans, il a fait.
Ouais.
Merci,
high
gars.
Five.
C'est vraiment cool. Et après, je me suis dit, je vais tenter ça, quoi. Je me dis, j'ai vraiment le parcours du gars cliché qui arrive à Paris avec sa petite valise. Bon, c'était pas une valise, ça devait être un sac à dos. Et je me suis inscrit au cours Florent parce que je connaissais que ça. J'avais jamais fait de théâtre du tout. Et je faisais des petits boulots à l'époque. Je faisais premier petit boulot, j'étais les mecs en chasuble qui t'arrêtent dans la rue pour avoir du pognon.
T'étais démarcheur.
Ouais, pour le WWF.
Ah putain, c'était toi.
Ouais, c'était moi. Je suis désolé, mais c'était pour les pandas.
Et t'arrives
pour la planète.
Oh, ouais, mais
j'étais pas mauvais. J'étais pas.
Ouais, t'arrivais.
Parce que j'avais la tchatche et je pense que je faisais marrer les gens et qu'au moins j'arrivais à leur parce que c'est pas du pognon qu'on demande dans la rue.
On
c'est
était
des
à trois blagues de sauver les pandas, quoi.
Ouais. Ouais, je suis désolé, les pandas. Mais je crois que ça va mieux, les pandas. Ils sont un peu moins en voie de disparition.
On les embrasse.
Mais je sais pas s'il y a un lien de cause à effet depuis que j'ai arrêté. Ils ont fait merci d'avoir arrêté. Enfin, bref. Et j'ai fait, donc, ça s'appelle une période probatoire. On sait un stage. T'as 3 semaines au cours Florent quand t'arrives en milieu d'année, quoi. Moi, j'avais commencé en novembre, je crois. Et au bout des 3 semaines, tu passes devant un espèce de jury où il y a 2-3 profs, quoi, qui regarde ce que tu fais. Et nous, on avait un texte à apprendre, un très court texte. Et moi, j'avais le rôle, c'est rigolo, ironie de l'histoire, c'est un journaliste belge. Et j'avais dû faire un accent, enfin, ça devait être, si je revoyais les images, bon, je pense que ça n'a pas été filmé, mais ça devait être un peu lamentable.
Mais tu ferais virer par Charlie
ouais,
et Alex.
C'est ça, directement. Mais toute la classe s'est marrée. Et ça, ce sentiment-là, j'ai jamais oublié, quoi. C'était pas un déclic, mais je me suis dit, OK, c'est ça, c'est bon. Et ça, moi, je fonctionne quand même pas mal comme ça. Tu vois, ça m'enlève les doutes, ça. Quand je sais, je me dis, c'est bon, là, j'ai trouvé ma place.
Donc, il y a des malentendus, puis de malentendu en malentendu, il y a une évidence, quoi.
Voilà, je farfouille un peu, je vais, on va aller voir par là, bof, bof, par-ci, par-là, tac. Puis à un moment donné, je trouve un truc et je dis, ah, là, je m'amuse bien. Puis un jour, j'en aurai marre ou les gens en diront, on en a marre. C'est pas la question, quoi. Mais ça, je m'en souviens encore, ouais. Ça, je me souviens de... de ce moment-là. Je sais pas, ça a dû durer même pas 2 minutes, quoi. Mais le sentiment, bah, toi-même, tu sais aussi, mais le sentiment, une salle qui rit, c'est, en fait, c'est assez violent, quoi, tu vois, quand il y a beaucoup de monde, parce que c'est, bah, c'est hyper sonore, c'est hyper physique. Et puis, c'est du je t'aime, en fait, tu vois.
Mmh. Ouais, il y a un truc de communion qui est assez rare, quoi.
Ouais. Assez étrange, quoi. Et ouais, ça, voilà. Je sais plus quelle était ta question, mais
comment t'es allé sur scène au début
Ouais, puis après, je te la fais courte, mais 3 ans de cours Florent, donc les potes, machin, on monte des pièces, on s'amuse. Et je crois que c'est à Chalon dans la rue, donc je faisais du théâtre de rue aussi avec une troupe, pareil, de copains que j'avais rencontrés au cours Florent. Et on a été voir un spectacle d'un mec qui était marrant, qui jouait dans la rue. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais tu pourrais faire ça, toi, t'es marrant, parce que j'étais pris que pour les rôles rigolos, quoi, au théâtre, en cours. Et je fais, ah ouais, vas-y, je vais essayer, quoi. Mais vraiment pareil, quoi. J'ai écrit 1 ou 2 sketchs, j'ai été dans les scènes ouvertes à Paris, donc à l'époque, le Churchman Comedy Club, l'Oscar Café, je sais plus ce qu'il y avait, enfin bon, il y en avait 10 quoi. Ça s'appelait pas encore Comedy Club, mais c'est le même principe, quoi. Et pareil, ça m'a plu direct et j'ai dit « Ah ouais, carrément, c'est cool !» Et j'ai continué.
Et tes débuts sur scène, tu disais « Bière et Duc, des fois, ça te flinguait ta salle et tout.
» Ouais.
T'as eu vraiment des jours où tu jouais devant 3 personnes.
Ouais. Ouais, mais encore une fois, on a un peu tous commencé en même temps, là, Pierre-Emmanuel, Barré, Alex Vizorek, je sais plus avec qui on traînait, Christine Béroux. On était une petite équipe, il y avait même Gaspard Proust. Ça fait vraiment, désolé, ça fait un peu vieux et souvenirs de vieux anciens combattants, mais on a un peu tous commencé en même temps et on se marrait ensemble. Donc limite, on a fait des scènes ouvertes où on se prenait tous des bides, mais on s'en foutait, on était ensemble, on allait boire des coups après. C'est de là où on a compris assez rapidement que les gens qui te disent « Non, il n'y a pas de mauvais public, c'est toi qui n'as pas été bon », c'est des conneries en fait. Il y a des mauvais publics. Parce que quand on est 4-5 à passer, que d'habitude on cartonne et que là les gens y rient pas, voilà. Bon. Donc il y a des mauvais publics, je le dis aux jeunes humoristes qui nous écoutent, ne paniquez pas. Bon, si ça arrive 20 fois de suite, ouais, je ne dis pas de ne pas rebosser un peu, mais en tout cas il y a des mauvais publics. Donc on était pareil, dans une espèce d'insouciance. Puis moi j'aime bien faire les trucs pour les faire. Je m'en fous un peu si ça marche ou pas.
Ah ouais?
Une fois que c'est fait, je veux pas de regrets, quoi. Donc, je pense que j'aurais regretté de jamais avoir essayé ça. Et qu'une fois que je le fais, après, c'est bon. Advienne que pourra, un peu.
Et ça marchait quand même la plupart du temps ou c'était assez hasardeux dans les retours?
J'ai commencé, moi, mon premier spectacle, il s'appelait Annulé.
Ouais, mais déjà ça...
Ça, tu vois, je me suis mis des bâtons dans les roues tout de suite.
Oui,
mais... Tu sais, tu parles du doute, c'est un peu l'objet de la discussion, mais quand tu commences, enfin, moi, je me souviens avoir eu 0 doute, quoi. J'ai appelé mon spectacle annulé.
Et aucun moment, tu t'es dit, les gens vont pas venir?
Non. Je disais, c'est bon, tu sais, t'arrives, tu dis, ouais, mais moi, je propose un truc différent des autres, j'ai trop d'avance.
En fait, c'est vrai, tu te rends pas encore compte de tout ce que tu connais pas, quoi.
Carrément. Mais tu sais, c'est le Dunning-Kruger, là, c'est un truc qui est étudié par par des scientifiques. Enfin, le pic de, ils appellent ça la montagne de la stupidité, je crois. Dès que tu commences à t'intéresser à un sujet, t'as toujours l'impression d'être au top de la connaissance très rapidement. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça avec le spectacle. Enfin, en tout cas, moi, j'étais dans cet esprit-là. Pas arrogant, mais dans ma tête, je me disais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et les gens n'ont littéralement pas vu puisqu'ils ne sont pas venus. Et j'étais avec mon metteur en scène, qui est toujours un très bon pote, s'appelle Luc Martin. Et on était 2 à dire, mais non, c'est un super titre parce qu'en fait, ça racontait l'histoire d'un spectacle qui s'annulait. Et on était là, ouais, mais les gens, ils vont piger quand ils vont venir dans la salle. Ouais, mais il faut déjà qu'ils viennent.
Mais ouais.
Donc, ça, deuxième conseil aux humoristes qui débutent. Une affiche de spectacle, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour être malin, c'est fait pour ramener des gens dans votre salle. Donc, faites pas chier avec le second degré. Allez à l'efficacité. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Faut faire avec les codes, quoi. Mais j'avais pas vraiment de doute à ce moment-là, quoi. Et j'ai même envie de dire, heureusement que je n'avais pas. Si t'arrives pas à lancer avec cette force en te disant, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez voir, peut-être que tu continues pas, quoi.
Mais moi, honnêtement, je comprends pas comment les gens démarrent à Paris. Parce que, genre, c'est tellement dur Genre les moi tous les potes qui me racontent ouais je jouais devant 2-3 personnes, mais frérot moi je j'arrête ou je me flingue en fait, il faut prendre une décision et
après ça a pas duré 5 ans hein, ça.
Ouais mais il y en a pour débuts. Qui ça a duré longtemps ouais, ce truc. Ouais. Et c'est tellement ingrat, c'est tellement d'amour propre qui se fait rouler dessus.
Ouais.
Que à Paris, je ne comprends pas comment je pouvais.
C'est vrai. En même temps pour un truc absurde parce que t'es là tu fais des blagues et il va rien se passer après. Mais quand même, t'as un moment de... Ouais, c'est
non,
ouais,
mais c'est un truc d'ego de se sentir rejeté. Parce qu'à partir du moment où les gens ne viennent... Enfin, tu vois, il y a un truc de tu te sens rejeté.
Ouais.
Alors que c'est juste que les gens, ils sont pas là, quoi. Ils ont une vie ou ils savent pas.
Bah, c'est ça, ouais. Et puis ils te connaissent pas, il faut un peu de temps. Ouais. Moi, j'ai un super souvenir. Je pense mon plus gros bide. Première partie de Tex. Tex, tu vois que c'est
oui,
Tex.
Bah, oui, mais c'est juste, je m'attendais pas à ça.
Parce que j'avais gagné un festival, c'était dans le sud-est, vers Avignon, là. Et la première, le premier prix, c'était de faire la première partie de la vedette de l'année d'après.
Ah, ça a mal vieilli comme et cadeau.
Putain, et la vedette, mais c'était à l'époque où il faisait des trucs à la con, mais il avait pas fait ses blagues pourries et ses spectacles où il dit qu'on peut plus rien dire. Et donc c'était, il était au top, quoi, si tu veux, ouais. C'était les amours et tout. Donc, et c'était dans des arènes en plein air. Vraiment, c'était trop beau, j'étais trop content. De me pointer et à l'époque je faisais des spectacles, mon premier spectacle, le fameux Annulé,
ouais.
J'ai changé le titre après mais voilà, c'était un spectacle en costume, j'avais des costumes donc je jouais, tu me regardes, les gens voient pas mais tu me regardes de manière
c'est
très
genre,
interloquée.
Je sais où on va. Et ça va être gênant et ça va être horrible.
Et je jouais des allégories, je faisais genre la mort. Et donc j'avais une faux.
Ah ouais.
Je faisais un peu du stand-up mais de personnages, tu vois, ouais. Stand-up d'allégorie. J'ai un copain qui m'avait dit à l'époque, ça s'appelle de la prosopopée, si vous voulez placer des mots savants. C'est faire parler
bon.
La mort, Marianne, la République. Je faisais un panda. Bref. Et c'était une époque, tu vois, j'avais gagné le festival, donc j'étais jeune humoriste débutant,
quoi.
Mais je savais que mes sketchs, ils marchaient. Genre. Et c'était 20 minutes, donc j'enchaînais deux sketchs. Et vraiment, bide, quoi. Vraiment, personne... Enfin, c'est l'enfer, quoi.
Surtout que déjà, bider, c'est dur, mais
bider en costume, t'es rapidement très seul, ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais, je sais pas ce qui est le pire. Ouais, possiblement c'est pire en costume.
Ben ouais,
quand
parce qu'il y a vraiment un truc, j'ai vraiment fait l'effort de trouver une tenue
ouais.
Pour venir vous faire ça.
Puis il y a un côté, là pour le coup, il y a un côté, t'es une soirée déguisée, mais t'es le seul déguisé.
Ouais.
Il y a un côté, venez, on avait dit qu'on allait rigoler. Et les gens ils font, ouais, non, non, non. Et je sors de scène. Et je dis à Tex, que je connaissais pas, je dis bah putain désolé mais tu vas galérer, le public il est vraiment merdique quoi.
Oh merde. Et il a défoncé.
Lui il arrive sur scène, carton plein,
oh, wow.
Les gens debout à la fin. Et je me suis dit ah oui donc en fait il y a un côté de qu'est-ce qu'attendent les gens aussi, qu'est-ce qu'ils sont venus voir, à quel moment tu les chopes dans toi ce que t'as envie de leur dire. Et après j'ai fait beaucoup de cabaret, mais avec mon pote Marc-Antoine Lebray, qui est imitateur. Il m'avait emmené dans un cabaret qui s'appelle La Main au Panier, où là c'est pareil, tu prends ton amour propre, tu le laisses à l'entrée, quoi. Tu joues à la fin du repas, donc souvent les gens, ils sont bourrés.
Ouais.
Mais pareil, on se marrait, nous, avec Marc-Antoine, on rigolait bien, tu vois. Mais là, on a bidé aussi, hein. Et puis, il y a des soirs, t'avais qu'une seule table, donc on jouait devant 8 personnes. C'était un chauffagiste qui avait invité son équipe. Genre un chauffagiste, tu vois, du Val-de-Marne qui s'est dit, on va faire, allez, je vous invite, on va au cabaret. Et il y avait qu'une table dans un petit boui-boui. La scène, elle faisait 1 mètre carré. Je raconte pas de conneries. La scène, on pouvait pas bouger, quoi. Lui, il arrivait, il faisait des imitations. Et moi, j'arrivais en costume derrière. Mais là, quand on s'en rappelle maintenant, mais on se marre.
Mais c'est ouais, souvent les pires histoires qui font les meilleurs souvenirs.
Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais j'ai pas souvenir d'avoir mal vécu le truc. Je me suis dit, ouais, ça fait partie de l'expérience. Puis ça sera drôle à raconter plus tard,
ouais.
C'est le cas, tu vois. Donc, ouais, des bides, ouais.
Un des trucs dont tu parles dans le bouquin, pour revenir
ouais.
Au bouquin, c'est la tendance qu'on a à toujours vouloir être productif, à vouloir vraiment toujours viser la réussite, être le premier, tout ça, et donc un peu rejeter la flemme. Et c'est un peu chelou que tu parles de ça, alors que genre t'es extrêmement prolifique, concrètement.
Oui, t'es
en radio tout le temps, t'es une des personnes phares de la chaîne. Tu sors de, j'ai l'impression, 6 bouquins par an.
Ben, c'est parce que je m'amuse. Enfin, pour moi, c'est pas un métier, quoi.
Ouais, mais ça
en
reste.
En tout cas, c'est
ça
pas un travail. Quoi.
Il faut de la rigueur, quand même.
Faut de l'organisation. Mais surtout, faut de l'envie. Oh, c'est beau ce que je dis. Non, mais je le pense vraiment. Je fais que des trucs. Enfin, j'ai la chance de faire des trucs qui me font kiffer, que je ferai gratuitement.
Notez si ça, si les éditeurs écoutent.
Non, mais c'est vrai. Hein. J'ai l'impression de jouer au Playmobil en permanence. Et donc, c'est plutôt chouette, quoi. Si on me disait arrête de jouer au Playmobil, ça me décevrait un peu, quoi. Donc là, je sais pas, ça m'amuse d'écrire un livre. Je trouve ça amusant de se mettre derrière un ordi, d'imaginer des choses. Quand c'est un roman, c'est rigolo. Tu imagines des personnages, tu les mets en situation. Ça me stimule à fond. Vraiment, j'ai une approche très ludique.
Et c'est jamais une tannée pour toi? Genre, tu te dis pas, putain, j'en ai marre, j'ai pas de sujet là, je sais pas quoi faire.
Non, parce que je trouve ça rigolo de chercher un sujet, de me dire, ah tiens, c'est marrant. Voilà, la contrainte, elle est assez chouette, je trouve.
Qu'est-ce qui te saoule? T'as l'air de rien.
Je suis pas souvent saoulé, ouais.
Macron?
Bah, il me saoule pas, c'est juste que... Non, tu veux qu'on parle politique, vraiment?
Non, mais...
juste t'as ouvert une porte, tu sais. Il est 23h30.
La porte maléfique.
T'es parti depuis une heure. Non, il n'y a pas grand-chose qui me saoule, non. Pas grand-chose qui... Bah, je suis en colère, oui, mais il n'y a pas grand-chose qui m'énerve.
Mais donc, dans ton métier, t'aimes toutes les facettes de manière un peu inconditionnelle, comme ça?
J'ai réfléchi.
Tant de joie, en fait, j'ai pas l'habitude, je t'avoue.
Ouais, je crois, ouais. Mais non, mais c'est quand même, c'est un métier, comme on disait tout à l'heure un peu, où on peut être solitaire. On mène notre barque, quoi. Je pense que ce qui me saoulerait, encore une fois, c'est la hiérarchie, mais j'en ai pas. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai fait en sorte de pas en avoir, mais c'est un peu le hasard et beaucoup de chance. On va pas se mentir. Faut être un peu lucide. Donc là, je kiffe. Ça sera peut-être pas toujours comme ça. Ça a pas toujours été comme ça. J'ai fait tourner en bourrique pas mal de patrons. Ça me plaisait bien. Et peut-être que ça sera le cas bientôt. Mais là, non, je suis dans un gros kiff. Mais je suis même, des fois, je suis un peu spectateur de là où je suis. Je me dis, là, quand j'étais au stade Vélodrome, dimanche dernier, invité par la communication de l'OM, je fais, si on m'avait dit ça, tu vois, c'était même pas un rêve, c'était même pas... Je me dis, c'est marrant comme parcours, quoi. C'est ce qu'on se dit avec Alex Vizorek aussi. Je veux pas l'outer. Mais on se dit, franchement, on n'aurait pas misé là-dessus, quoi. On a quand même énormément de chance. Donc, bah, tu peux avoir de la chance et kiffer et avoir des aspects qui te saoulent, mais là, je vois pas, honnêtement.
Ok. Mais genre, quand tu dis, là, t'as... Il y a eu un petit micro-buzz sur Internet parce que t'as dit que les nageurs, ils sacrifiaient les plus belles années de leur vie à faire des allers-retours pour potentiellement avoir une médaille à la fin, mais peut-être pas. Et donc, il y a des nageurs ou même d'autres sportifs qui se sont un peu énervés parce que ça leur fait plaisir et tu n'as rien à dire de ce qu'ils font de leur vie, nanana. Mais tu trouves pas, t'as jamais cette sensation avec le type de carrière qu'on a? De voir chaque année, chaque jour changer de ville, et du coup tu vois pas tes potes, tu vois pas ta famille, et donc il y a quand même tu dois mettre un peu ta vie de côté quand même, de temps en temps.
Faut être bien organisé, c'est ce que je disais. Moi, j'ai pas l'impression de sacrifier quelque chose, quoi. Donc je me suis organisé, là je fais moins de chroniques à la radio justement pour pouvoir voir plus les gens que j'aime. Donc ça, voilà, dès qu'il y a un souci, j'essaie de le régler. Je me dis voyons voir comment on peut faire, et voilà, la solution c'était de faire moins de chroniques à la radio. Faisons moins de chroniques à la radio.
Tout a l'air tellement facile quand c'est toi qui le gère.
Là, c'est quand même des problèmes de riches, quoi. Tu vois,
moi,
en ce qui me concerne, je veux dire. C'est comment faire moins de tournées ou moins de chroniques. Enfin, voilà. C'est pas tout le monde qui a ce genre de problème. Mmh. Donc, non, ça se traite quand même assez facilement. Hein.
Okay.
Ça, c'est plutôt vrai. Et pour revenir sur les sportifs, c'est ce qui est assez drôle. Enfin, il y a plein de trucs drôles dans cette histoire. Bon, déjà, je me suis fâché avec les gens potentiellement les plus musclés de France. Donc quand t'as Florent Manoudou qui te dit calme-toi, tu fais oui là là, mais attendez, je m'as fait comprendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils passent leur temps dans les interviews à dire ça,
ouais.
À dire j'ai sacrifié ma jeunesse, cette médaille c'est beaucoup de sacrifices. Donc il y en a deux trois qui m'ont écrit de manière plus ou moins sympathique, et je leur ai renvoyé leurs propres interviews en disant mais c'est toi qui l'as dit. Et puis pour finir sur le sujet, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les sportifs de haut niveau. Enfin, au niveau individuel, en vrai, je m'en fous que quelqu'un passe 12 heures par jour dans du chlore pour nager 2 millièmes de seconde plus vite qu'un autre gars qui fait la même chose. C'est comment cette pensée-là infuse la société en général. Mmh. Comment on vit dans un monde de compétition. Si un jour, il n'y avait plus que les nageurs ou les sportifs de haut niveau qui font des compètes entre eux et que dans le reste de la société, notamment au niveau du monde du travail, ça soit plus un monde de compétition, ça m'ira très bien. J'irai même les voir, je leur remettrai la médaille à la fin et le bouquet de fleurs s'ils veulent, j'aurai pas de soucis.
Mais justement, ce truc qui infuse la société, c'est un peu une... Il y a plein de trucs dans ton livre où je me disais, putain, il a trop raison, j'aimerais trop penser pareil, mais je ne suis pas capable de l'appliquer. Il y a un truc qui ne va pas, qui s'entrechoque avec ma
c'est
façon
de... C'est pas toi,
de...
en fait. C'est pas ta façon. C'est qu'on vit on vit dans une fiction. C'est la fiction qui a gagné. Le récit qui a gagné aujourd'hui, c'est la compétition. C'est le capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se battre. On n'est pas ensemble. On est les uns contre les autres. Il y a une pyramide sociale. Il va falloir la grimper. Il va falloir en chier. Il va falloir se lever le matin. Donc, t'as toute une fiction autour de ça. Le mérite, notamment, est une fiction qui te dit quand on veut on peut et tout ce genre de conneries quoi. L'égalité des chances, enfin il y a plein de cette fiction a plein de petits de mini récits qu'on te fout dans la tête depuis que t'es gamin, mais c'est même pas ça, c'est même pas une manipulation, c'est juste on baigne dedans, on vit là-dedans. Et une fois moi mon bouquin c'est une espèce de tentative de lucidité de dire attendez, OK, c'est la fiction qui a gagné. Mais on peut inventer un autre récit hein. il est pas du tout corrélé à la réalité ce récit. Il correspond en rien à la réalité. Par exemple, je vais donner des exemples, ça va être plus facile. Si il n'y avait pas eu de coopération entre les humains pour, mettons, chasser un mammouth, il y aurait plus d'humains. Donc notre système est plus basé, notre survie est plus basée sur la coopération que sur la compétition. Et pourtant, aujourd'hui, on ne parle que de compétition, on se note les uns les autres, on se surveille pour savoir qui va gagner, on se remet des médailles, des diplômes, etc., etc. Donc, à qui profite cette structure? Bah, au fameux 1%, on dit 1% un peu rapidement, mais voilà, au fameux 1% qui se gave de ça, pendant que les 99%, ils s'arrachent la gueule pour récolter les miettes qui restent, quoi.
Non, parce que ça, tu le dis, gagner, c'est créer des perdants, quoi.
Ouais, ça, c'est une phrase d'Albert Jacquard, c'est pas une phrase de moi, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Halte au jeu, donc avant spécifiquement sur la compétition, dans le sport notamment, et il dit une phrase marrante, il dit si on donnait une médaille au quatrième, bah, du coup, c'est le cinquième qui pleurerait, quoi. Donc, ça n'a aucun sens. À partir de là, tu dis, est-ce que c'est pas un peu absurde tout ça? Et ça l'est, quoi. Alors, ça l'est. C'est rigolo quand on joue le jeu de ça. En fait, je pense que c'est vivable si on sait que c'est une fiction. Exemple, on va revenir sur notre exemple de stade Vélodrome, parce que c'est un exemple récent. Quand tu te retrouves au milieu de 60 000 personnes qui regardent des gens taper dans un ballon, hein, en hurlant, tout ça n'a aucun putain de sens. Mais à partir du moment où tu sais que ça n'a pas de sens et que tu joues ce jeu-là, c'est pareil, tu dis, bon, allez, on joue, on se fait croire que ça a une importance et que moi, je soutiens les rouges, toi, les bleus, machin, et on joue le jeu de ça, je trouve que ça a un aspect ludique et que c'est acceptable et que c'est même un peu jouissif, parfois jubilatoire. Mais quand ça concerne la survie des gens, quand c'est appliqué à un système économique, bah, ça crée des SDF. Et SDF, il est dans la rue, il va crever de froid. Donc c'est pas applicable partout. À partir du moment où tu sais que c'est une fiction, le capitalisme c'est une fiction, tu peux dire bon bah imaginons autre chose quoi. Et c'est pas compliqué. Hein.
Et comment toi t'as réussi à t'extraire de ça ou en tout cas avoir la lucidité de te dire tout ça c'est une vaste mascarade et on.
Bah je sais pas, l'éducation je pense. Enfin moi je suis un peu le pur produit de mes parents. J'ai vraiment été éduqué là-dedans, quoi. Donc, j'ai vraiment zéro mérite, là, pour le coup. J'ai pas eu un déclic où je me suis dit « Ah, mais oui, mon Dieu, il faut s'extraire de ce truc-là. » J'ai pas mal été élevé dans les... On n'avait pas la télé, donc on débattait beaucoup. Et avec mon père, notamment, on a toujours cherché un petit truc où on n'était pas d'accord et on tirait dessus, quoi.
Il te parlait comme un adulte.
Ouais. Oui, oui. Et j'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus, donc j'ai pareil, c'était... Et pendant les repas, quoi, des fois on gueulait, mais c'était toujours pour l'amour du débat, de la petite phrase, d'essayer de voir où l'autre il a tort. Tu vois, j'ai vraiment grandi là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des chroniques où je vais faire chier les gens dans la rue en cherchant la petite bête. Mais c'est pur produit de mon éducation. Puis après, les lectures, c'est mon père qui m'a dit par exemple de lire Albert Jacquard. Et ça m'a tout de suite parlé, quoi. Donc, ouais, je crois que c'est pareil, j'ai grandi là-dedans, quoi.
en n'ayant pas de compétition, pas cette envie de plus que les gens ont toujours, comment tu trouves la validation? Tu vois, le truc de... Parce que moi, je sais que je fonctionne qu'à ça. Ouais. Je fonctionne que si je veux bosser sur un truc, il faut juste que je demande à des gens de me demander comment ça avance. Comme ça, si je le fais pas, ils vont me juger. Et donc, j'aurai pas leur validation. Et donc, je vais travailler. Tu vois,
c'est un peu pervers, mais je vois.
Totalement.
Ouais, carrément.
C'est une petite carotte de mépris.
Ouais. là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est un peu égocentrique, mais c'est un peu en moi, quoi. Si je me dis, bah, tiens, c'est ça que j'ai voulu faire. Je me suis assez rapidement affranchi. C'est même assez paradoxal quand tu fais un métier public où tu parles devant des gens, où tu parles à des gens. Je me suis assez vite affranchi du regard des autres là-dessus. Par exemple, quand tu fais des chroniques à la radio sur France Inter, eh ben tu vas recevoir des messages comme quoi t'es un génie, t'es le nouveau Coluche, t'es un héros de la liberté d'expression. Et même chronique, t'es une merde. Je veux te rouler dessus avec mon tracteur ou mon 4x4 de chasseur. Et je crois à aucun des deux, quoi. Je crois pas que je sois une merde, et on va revenir à la médiocrité, mais je pense sincèrement, je crois pas que je sois un génie. D'ailleurs, je crois pas au génie, et je crois pas que les gens sont des grosses merdes. Donc ça m'apporte rien. Je vais jamais voir les commentaires sous les vidéos ou les chroniques, parce que ça m'apporte jamais rien. Enfin, j'apprends rien. Sauf quand j'ai fait une connerie dans une chronique, que j'ai dit un truc qui était faux, souvent on me le dit, et je dis, ah oui, pardon. Erratum et tout, hein, bien sûr. Mais sur le fait d'être validé ou pas, je vois pas quelle expérience tirer de ce qu'on dit de moi. Mmh. En revanche, ce qui m'intéresse plus, c'est des gens qui peuvent me dire « Ah, j'ai compris où tu voulais en venir, mais peut-être que si t'étais passé par ce chemin-là, ça aurait été mieux. » Et c'est là ça m'intéresse. Je me dis « Ah ouais, ah pas mal, mais oui, évidemment, c'était ce chemin-là qui était mieux. » Et là, c'est rigolo, parce que c'est un peu dans la construction de ton discours ou de ton propos, comment tu vas arriver là où tu voulais arriver. Mmh. Tu vois, il y a toujours un peu l'aspect ludique. ça m'intéresse plus, mais qu'on me dise c'est bien ou c'est mal, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Et souvent, pareil, peut-être t'as ça aussi, mais on reçoit des textes de jeunes humoristes qui disent « Ah, j'aimerais bien faire de la radio, être sur scène, j'ai écrit ça, dis-moi ce que t'en penses. » Et je leur dis « Je crois que mon avis de Guillaume Meurice n'a pas d'intérêt pour toi. » Parce que si je trouve ça drôle, ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu vas cartonner. Si je trouve ça pas drôle, ça veut pas dire ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que tu ailles le tester sur scène et le refaire plusieurs fois, voir si les gens se marrent, à quel moment ils se marrent, pourquoi ils se marrent. Est-ce que toi t'as vraiment voulu dire ça ou est-ce que t'as été chercher un truc fastoche juste pour qu'ils se marrent? Mais ça n'a pas d'intérêt. C'est bien ou c'est pas bien? Pour moi, c'est assez absurde, quoi.
Et donc toi, quand t'es sur scène, si c'est pas la validation qui joue, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait que t'as envie de retourner sur scène?
Alors, le fait de le jeu. Jouer avec les gens.
C'est que ça, en fait.
Ouais, franchement, c'est le gros kiff. J'ai une citation, je peux dropper une citation de Michel Bouquet. N'oubliez pas que les gens sont pas venus vous voir jouer, ils sont venus pour jouer avec vous. Ça, c'est vraiment mon gros kiff. Moi, tous mes spectacles sont basés sur venez, on se disait que... Donc là, venez, on se disait que on était à un meeting politique, et j'adore que les gens réagissent, jouent le jeu, quoi. Avant, j'avais un groupe de rock, je faisais du rock macroniste.
Et disruptives.
Disruptives. Et genre, les gens jouaient le jeu de on est à un concert de rock de macroniste. Et quand t'arrives à créer ça, alors faut que ce soit assez rapide dans les spectacles, dans les 10 premières minutes, quoi, tu vois. 10-15 premières minutes, ça, c'est hyper kiffant. Là, tu passes une soirée à jouer avec les gens, avec l'ambiance et tout, ça me fait triper.
Puis toi, ça te permettait de jouer aux musiciens, quoi.
Et c'est génial. Et on disait que j'étais une star de rock.
Mais ça, moi, incroyable. Je pense que c'est genre ma théorie sur les humoristes, c'est qu'on aurait tous voulu être des rock stars, mais
ouais.
On n'était pas.
Il paraît que c'est
doués.
L'inverse, c'est vrai aussi.
Ah ouais.
Ouais, que c'est Eddie Mitchell, je crois, qui disait ça. Et Renaud aussi, il faisait, bon, c'est pas une rock star, mais il faisait pas mal d'humour dans son spectacle. Et ouais.
Ouais, je pense qu'en humour, on n'arrivera jamais à ressentir quelque chose d'aussi fort que les musiciens quand ils voient des foules.
Je pense, ouais.
Et donc, ouais,
ça doit être fou. Ouais, tu fais deux accords et les gens.
Ouais, c'est ça.
Ça doit être incroyable.
Et ouais. Donc, toi, là, t'as pu jouer à la rockstar.
Oui, enfin, oui, moi, je faisais deux accords et les gens, ils faisaient pas. Ah, si, ils faisaient semblant de. Mais j'adore ça, ouais. J'adore ce moment-là. Et j'ai pas mal d'impro je sollicite pas mal les gens dans le spectacle. Parce que, pour cette raison-là, j'aime bien jouer et je serais assez gêné, je pense, d'un spectacle où je dirais juste aux gens, bouclez-la, vous allez voir, je vais vous faire marrer. Et mais après, ciao. Mais de la même manière, j'arrive toujours dans la salle à 14h, je repars souvent, on se fait virer par la sécu, parce que je vais boire des coups avec les gens après, ou je dédicace des conneries. Et puis j'aime bien discuter avec les... En fait, j'aime bien l'intégralité du truc. Je pourrais pas arriver à 20h10, jouer à 20h30 et me barrer à 23h. Enfin, je pourrais pas. Ça me frustrerait, quoi. Je me dirais, ah bah non, moi je veux faire toute l'aventure, quoi.
Être artiste, c'est savoir faire résonner les médiocrités. J'ai beaucoup aimé cette phrase.
Ouais.
C'est quoi, toi, les médiocrités qui t'ont inspiré?
Ah bah, beaucoup d'humoristes, quand même. À l'époque où on avait des VHS, ouais, beaucoup les spectacles de Élie et Dieudonné ou Dubosc, genre le premier spectacle, qu'est-ce que j'avais en caisse. Même Bigard. Bigard, il avait un spectacle qui était vachement bien, il s'appelait 100% tout neuf, je crois, sur les œuvres d'art ou sur des trucs comme ça, il faisait des œuvres d'art.
Tu confonds avec Alex Vizorek.
C'est vrai. Putain, Alex Vizorek a piqué l'idée. Ouais. Non, il racontait aussi, je sais plus, il y avait des trucs pas mal, mais c'est pas lui qui l'avait écrit. Je me demande, c'est pas Rolin qui l'avait écrit. Enfin, bref,
attends,
c'est
Rolin
des
Rolin et Bigard?
Ouais, Rolin, il a écrit des spectacles pour Bigard.
Oh, wow. Ok.
Ouais. Et donc ça m'a pas mal, c'est pas, oui, ça m'a inspiré dans le sens où je mettais beaucoup ça quand j'étais gamin. Beaucoup les guignols de l'info. Et les dessins de presse aussi. Comme j'ai grandi, mes parents avaient une maison de la presse. Et j'ai grandi là-dedans. Et Charlie Hebdo de la grande époque, ce genre de truc, Canard enchaîné. Le dessin, c'est un truc d'assez fascinant, quoi. Parce que je me dis souvent, nous, on fait des blagues, on a besoin d'une prémisse, clac-clac, pour ramener les gens à une petite, un petit piège qu'on leur a préparé. Tac, c'était là. Eux, ils arrivent et on a un dessin en une seconde, tu regardes le truc et tu te marres. J'ai toujours trouvé ça un peu fascinant, quoi. Tu gagnes du temps, quoi, on va dire, sur le cheminement. Et c'est plus ce genre de choses, ouais, qui me faisaient triper quand j'étais ado, en tout cas.
Mais en quoi c'est des bouts de médiocrité, ça?
Bah, parce que c'est jamais, par exemple, les Guignols, ils faisaient une émission, je sais pas, ça devait être 10 minutes tous les jours. Donc, là, on retient évidemment que le meilleur, mais tu sais, comme tous les humoristes, comme Coluche ou Desproges, moi, je fais une petite digression, mais on a fait l'espèce de procès de Desproges, on faisait une émission spéciale hommage à Desproges qu'il aurait détesté sans doute. Et moi, je faisais Desproges dans le rôle du procureur du tribunal des flagrants délires. Donc, je me suis retapé tous les textes de Desproges, des réquisitoires de l'époque. Et c'est pas tout bon, hein. On retient que les trucs bons aujourd'hui, parce qu'il y avait des trucs fantastiques. Mais bon, tu vois, quand t'es obligé d'écrire tous les jours, donc les Guignols, c'est pareil. On retient que les trucs exceptionnels, mais. Donc, il y avait du poussif, il y avait de tout ça, quoi. Donc, il y avait de la médiocrité, il y avait de, désolé, on n'a pas eu le temps parce qu'il est 18h et qu'on doit tourner. Dessin de presse, c'est pareil, t'as le rythme de la diffusion, de la publication. Donc, c'est encore une fois, on retrouve ces contraintes que moi j'aime bien et qui font que rien, absolument rien n'est parfait, quoi. Et tant mieux. Et quand toi t'arrives en tant que public sur un truc, oui, moi j'aime bien l'idée de faire résonner les médiocrités parce que tu te reconnais là-dedans, quoi. Il te faut des failles, en fait, un truc trop parfait. Ça voudrait rien dire, en fait, un truc trop parfait. Ça n'aura même pas de sens, quoi. Donc, je suis sûr que la Chapelle Sixtine, il y a des trucs qui vont pas. Perspective est nulle.
Ce sera le titre de l'épisode.
Chapelle Sixtine peut mieux faire. Mais parce que le gars, je sais pas, à un moment donné, il a arrêté en plein milieu, il a repris, enfin, c'était un peu bordélique. Un jour, il a la gastro, il part un peu moins bien, j'en sais rien, il y a plein de trucs, tu vois, comme ça, qui peuvent arriver. Les processus de création, c'est toujours un peu, enfin, c'est toujours chaotique, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, j'aime bien l'idée que Léonard de Vinci, il regarde la Joconde en faisant, putain, j'ai raté le sourire. J'ai mis dans le bouquin, parce que j'aime bien cette idée-là. Et que deux siècles plus tard, regardez le sourire de la Joconde, c'est exceptionnel, mais comment il a fait?
C'est pas un mystère, c'est une rature, quoi.
Ouais, et que le gars, en fait, c'est pas un chat qui passait, il a fait ah putain, ah vas-y, ça me saoule, je vais laisser comme ça.
Et
il y a plein de trucs qui, pardon, il y a plein de trucs, nous on le sait sur scène, comme c'est un spectacle vivant, c'est pas une peinture, donc on fait, il y a énormément de choses qui nous viennent par accident.
Ouais.
Et qu'on garde. Et c'est pareil partout. La science, par exemple, qu'on considère comme quelque chose d'implacable parce qu'il y a un protocole à respecter, etc. Le nombre de trucs qui sont nés du hasard ou alors qui sont en permanence nés de l'échec. Un système essai-erreur qui fonctionne partout dans la société, pas qu'en science, quoi. Donc on échoue, on rate en permanence, c'est jamais parfait et on s'en fout. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, quoi.
Est-ce que toi, il y a un échec où là vraiment, t'arrives pas à te dire ça fait partie du processus, c'est important de rater, ou là tu te dis ah putain ça j'ai les boules quand même?
Ah ben ouais, souvent, ben, j'ai pas l'exemple précis, mais souvent quand tu blesses des gens sans le vouloir. J'ai pas d'exemple précis sur une chronique ou autre, mais ça a déjà dû m'arriver ça. Et ouais, là, oui. Évidemment, c'est le pire truc qui peut arriver, blesser des gens. Mais même, bon, blesser, j'ai jamais voulu blesser des gens, mais blesser des gens en règle générale, enfin, c'est pas forcément le but du processus humoristique. C'est plutôt de les faire kiffer.
Dans le bouquin, tu te fous un peu de la gueule des coachs de développement personnel et tout, qui aident les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais en vrai, ton bouquin, c'est un peu, c'est ça.
on m'a déjà dit ça. Ça serait genre, ça s'il n'y avait pas l'aspect politique dedans. Hein. S'il n'y avait pas, comment on pourrait faire pour que ça soit pas juste un problème individuel, quoi. En fait, ce qui est le pire avec les coachs en développement personnel, c'est qu'ils trouvent des solutions personnelles, individuelles, à des problèmes qui sont collectifs.
Ouais, donc ils gèrent les conséquences plutôt que les causes.
Ils gèrent que les conséquences. Mmh. Donc ils vont mettre des pansements sur les fractures ouvertes, quoi. En disant, tu vas faire de la méditation, tu vas voir, demain tu vas pouvoir retourner au boulot et être productif, etc. Ça s'attaque jamais aux conséquences. Donc finalement, ça soutient le système, quoi. Ça soutient la structure tout le temps.
Mais, si t'as pas ce truc un peu d'essayer de, parce que essayer de devenir un peu la meilleure version de toi-même, c'est quand même relativement positif, à la base.
Mais surtout, ça veut rien dire.
Ben non, mais dans tous les cas, d'être plus heureux.
Ah oui, voilà, ouais, à la limite.
Mais si t'as pas d'objectif un peu long terme, comme moi, je trouve ça très rassurant de se dire, justement, de se dire, ok, je vais régler tel problème, parce que de toute façon, je ne peux agir que sur le personnel, parce que le truc un peu plus large, plus grand que moi, je sais pas le gérer. Donc ça donne un peu une perspective long terme, j'ai l'impression.
Ouais, alors je dis pas le contraire. Ça, c'est hyper intéressant comme sujet, parce qu'il y a des choses qui marchent à l'échelle individuelle, et si tu les extrapoles à l'échelon collectif, ça marche plus. Exemple. Si t'as un copain qui va pas bien, t'as un copain noir de banlieue qui trouve pas de boulot, tu vas pas aller le voir en lui disant, bah ouais, mon pote, c'est la structure qui est dégueulasse, on va attendre qu'il y ait la révolution et que les gens soient moins racistes et tous tes problèmes vont disparaître. Tu lui dis, bon, allez, bouge-toi, demain je t'accompagne, on va aller déposer des CV. Évidemment qu'à l'échelle individuelle, tu vas essayer de bouger le cul pour ton pote, mais pour qu'il aille mieux. Mais quand tu transposes ça à l'échelon, à l'échelon national, ça donne, bougez-vous le cul, quand on veut, on peut, regardez, Mohamed, bah voilà, il s'est bougé le cul. Aujourd'hui, il a monté sa petite entreprise qui fonctionne très bien. Regardez, je vais lui serrer la main devant des photographes. Donc évidemment, à l'échelle individuelle, oui, je dis pas aux gens, aidez pas vos amis, puisque de toute façon, c'est un problème structurel. Je dis, et c'est pour ça que mon bouquin, j'espère qu'il n'est pas qu'un livre de développement personnel. Je dis, il faudrait qu'on s'organise au niveau collectif pour qu'on ait plus besoin à l'échelle individuelle de dire, bon, bah allez, les gens sont racistes, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
je sais pas si j'ai été très clair,
ouais,
mais...
Ouais, si, je comprends. Ouais, mais en fait, comment tu fais pour ne pas être déprimé, en fait? Tu vois, d'être un peu lucide, parce que vu que voilà, tu parles souvent de politique, t'es beaucoup dans les problèmes un peu systémiques, un peu structurels. Comment tu fais pour ne pas justement être dépité, en fait, de ça?
Alors, plusieurs raisons. Bah, déjà, parce que le point de bascule, à mon avis, il est pas loin. Le point de bascule d'une société, comme une société, tu vois, genre, on a vu par exemple les printemps arabes, il a fallu deux, trois petits éléments déclencheurs pour que un mouvement qui est dans la société, qui a une colère qui est dans la société, s'exprime et que ça fasse quand même bouger énormément de choses. Donc je sais pas si en France il va se passer ça, hein, j'ai pas du tout les capacités de prédiction. Mais en tout cas, je suis pas désespéré de ça. Je me dis pas, c'est impossible qu'on arrive à changer la structure. La structure, elle se change en permanence. Donc je pense que c'est possible de le faire. Et vraiment, c'est pas la principale raison pour laquelle je déprime pas. La principale raison, c'est que les gens, ils sont déjà en train de s'organiser. Il y a des gens, par exemple, des bénévoles, par exemple, en France. Le tissu associatif français, il est fantastique. T'as des experts de gens, de tous les domaines, pardon, des experts bénévoles que tu retrouves partout, qui vont accompagner les gamins au foot le dimanche, qui s'intéressent à une race de crapauds, une espèce de crapaud en disparition, en voie de disparition, je sais pas, qui vont donner de la bouffe à des gens SDF. Donc, la société s'organise déjà elle-même sans penser à changer la structure qui nous domine, elle s'organise déjà elle-même pour survivre. Et j'ai un chapitre dans mon bouquin où je parle de la grève des bénévoles. Je pense que s'il y a une grève des bénévoles, la France explose en 15 jours, quoi. Les gens meurent dans la rue, il y a des zombies. Si les gens qui bossent gratuitement dans ce pays arrêtent de le faire, sans parler des travaux ménagers, maison, etc., les inégalités femmes-hommes, là, ça pourrait être le cas aussi, tu vois, si les femmes arrêtent de bosser à la maison, tu vas voir le bordel que ça va être, quoi. Donc, c'est pas que j'ai une foi en l'être humain absolument démesurée, c'est que je vois bien comment ça se passe. Les gens, ils s'organisent déjà. Les gens, ils savent déjà faire. Donc, il faudrait pas grand-chose pour que ça se retrouve à une... Ce qu'il faudrait, en fait, maintenant, c'est que ça se retrouve à une échelle plus globale et plus nationale, quoi. Que c'est ce côté horizontal, quoi. Des gens qui font une assoce, c'est on ne peut plus horizontal, quoi. Mais même, ça peut être une assoce de club de Scrabble, quoi. C'est les gens qui se réunissent, qui sont ensemble pour jouer au Scrabble. Ils sont contents d'être là. Enfin, la vie, quoi. Tu vois.
Et là, tu penses que ce qui se passe avec la réforme des retraites et tout...
Tu veux vraiment qu'on parle politique?
Non, mais oui, c'est juste, symptomatique, en fait. Là, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse étape, quoi. Je suis pas du tout... Je suis rien de la politique et tout, mais j'ai l'impression que là, ça touche tellement de gens qui, d'habitude, n'auraient jamais parlé politique. Est-ce que tu penses que c'est un basculement, quand même?
Ça touche les gens parce que le mec qui est au pouvoir, il est vraiment victime de, enfin, ce que les Grecs appelaient l'hubris, là, tu sais, la démesure de soi-même, quoi, l'exagération et le pouvoir porté à son incandescence. Le mec se sent plus pissé, quoi. Et même si les gens, ils sont pas forcément spécialistes de la réforme des retraites à point par capitalisation, ce qu'on reçoit d'un mec qui vient te parler à la télé pour dire que de toute façon il changera rien, vous pouvez toujours manifester dans la rue, on vous enverra les flics, ce que tu ressens en toi, mais c'est très physique, hein, c'est un truc physique, quoi.
Il y a un peu, c'est un challenge.
C'est un challenge, mais il challenge 67 millions de personnes. Et une phrase je fais beaucoup de citations, vas-y. Peut-être ça fait un peu pédant, mais La Boétie, j'aime bien, il dit ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et il suffirait quand même que les gens se lèvent et ils feraient moins le malin, quoi. Et c'est hyper symptomatique ce qui se passe d'un gars tout seul au pouvoir, qui a tous les pouvoirs, en fait, et qui se sent plus pissé et qui dit non, mais de toute façon, on va faire comme je veux parce que vous êtes cons. Ça se finit jamais bien. Hein. Je veux pas spoiler, mais ça se finit jamais bien.
Top. C'est quand t'es enfant que t'as appris à reconnaître les sophismes dans les débats?
Non, bien plus tard.
Ah ouais?
Ah ouais, mais même, c'est, j'ai même envie de te dire quasiment quand j'ai commencé à faire des chroniques. Sous forme de... j'ai commencé à la radio en 2012, je faisais les chroniques des papiers de 3 minutes, et puis c'est Alex Vizorek, le fameux, qui a eu l'idée de me faire faire des reportages, de me donner un micro, et il m'a dit, va vadrouiller, ramène-nous du son rigolo. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça, quoi. Pourquoi les gens, ils me disent des dingueries au micro, et d'où ça vient, et ouais, un peu la fabrication de la pensée, quoi, la fabrique de l'opinion, quoi. Et après, tu te rends compte que oui, t'as des sophismes, t'as des a priori qui sont, c'est pas très compliqué. Quand un gouvernement veut faire passer une réforme, il emploie une boîte de communication qui crée des éléments de langage. Mais c'est très technique, hein. C'est des gens qui se réunissent dans une pièce et qui disent, il y a ça à faire passer. Bon, par exemple, les retraites. Ils font des punchlines, hein, ils font ce qu'on fait nous, hein, parce qu'ils savent que c'est efficace. Donc puisqu'on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. Ça c'est un pur sophisme, parce que ça a l'illusion de la réalité. C'est méga efficace, le cerveau il adore. Le cerveau c'est un organe, il est feignant. Donc si t'as un truc tout fait comme ça, donc moi je vais interroger les gens dans la rue, ils me le ressortent, comme si eux ils l'avaient inventé, tu vois. Je me souviens, il y avait toute une époque avec les migrants, ils avaient inventé humanité et fermeté. Nous agirons avec humanité, mais aussi fermeté. Voilà, les gens, ils me le ressortaient dans la rue. Ça, c'est les trucs bossés en conseil de cabinet de communication, tu vois. Les McKinsey et tout, ils servent à ça. Donc après, les politiques vont essaimer ça dans les médias, CNews, BFM, France Inter, Matinale, etc. Les gens écoutent ça et le répètent, comme un peu du prêt-à-penser. Quand je dis les gens, moi aussi, hein, parce que quand il y a un truc qui me convient, c'est un politique que j'aime bien, je veux aussi avoir tendance à répéter ce qu'il a dit. Sans forcément remettre en question. Et c'est souvent quand on discute, c'est pour ça que j'ai dit confronter nos médiocrités, ça. En discutant, tu dis, ah oui, ça je l'ai répété, mais j'avais pas réfléchi. Et au final, voilà, c'est ce que tu retrouves dans ce qui crée en fait l'opinion publique. Ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est que ça, quoi. Donc c'est un peu triste, mais moi je trouve ça assez stimulant de se dire que finalement ça tient que là-dessus. Et j'encourage vraiment tout le monde à lire et à écouter Clément Viktorovitch, qui analyse ça hyper bien. Son livre, il est méga complet. Enfin, c'est un gros geek de ça. Donc, il décrypte tous les process de rhétorique. Allez lire L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer aussi. Très court texte, assez marrant. Et après, tu regardes plus jamais un débat de la même manière. T'es là, t'as un bingo devant toi et tu fais « Ok. »
Et t'es jamais en colère quand t'es justement face à des gens qui te ressortent des énormités parce qu'ils n'ont pas réfléchi ? Ou est-ce que t'es plus dans la tristesse de voir qu'ils ont gobé tout sans réfléchir ?
Non, je suis jamais en colère parce que c'est les gens qui subissent, quoi. Les gens que j'interroge, c'est les gens qui subissent. Mais même jusqu'au bout, les députés que j'interroge, ils n'ont pas le pouvoir. Donc, c'est aussi des gens qui subissent. Enfin, j'ai plus de la peine, ouais, souvent. Mais pas pour les gens, mais pour ce qu'on est, nous, quoi. Notre manque de discernement. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de se dire, mais on a tous un manque de discernement. Individuellement, on est très limité. On ne peut pas grand-chose. Il faut absolument qu'on trouve une structure qui nous permette de mieux réfléchir. Un truc qui a été fait, qui était génial par Macron, qui est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été faite pour des très mauvaises raisons, mais qui au final a créé des choses incroyables, c'est mettre 150 personnes tirées au sort sur un sujet précis et un poil important, à savoir le réchauffement climatique, alias la survie de l'humanité, quoi. Tu les mets dans une salle et tu les fais réfléchir ensemble. Tu leur apportes du contenu scientifique, des gens qui les aident. Et t'avais des climato-sceptiques qui sont devenus hyper militants de la cause écolo parce qu'ils savaient pas, tout simplement, avant. Parce qu'avant, ils regardaient Hanouna et ils étaient pas au courant de tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que quand je dis de la tristesse et de la peine, c'est pas genre « Oh, le pauvre, il est con ». C'est mince, je me rends bien compte que tout seul, on peut rien. Enfin, c'est bateau, hein, de dire ça. L'union fait la force, qui est cette devise.
Et, sûrement un excellent pays.
Qu'il l'applique pas de ouf. Mais je me rends bien compte de comment ça pourrait être mieux. C'est pour ça, des fois, ça me fait de la peine. Mais de la colère, jamais. J'aurais pu être ces gens-là. Et je suis pas sûr d'être une super personne non plus. Enfin, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Donc, ouais, c'est plus ça que je ressens.
Et vu que t'aimes bien souligner justement les paradoxes et tout dans ce que disent les gens et tout, c'est quoi toi ton plus gros paradoxe, le truc où tu dis putain, je sais que j'ai tort, je sais que je devrais pas penser ça et tout, mais
ou des contradictions, je sais pas, j'ai un iPhone, je suis pas végane, je suis végétarien, ça n'a pas beaucoup de sens en fait, hein, puisque on sait que voilà, la production de lait c'est beaucoup de vaches envoyées à l'abattoir. Je me déplace beaucoup, donc je dois avoir un bilan carbone relativement dégueulasse. Je vais jouer à La Réunion, par exemple, en mai. Donc, puis là, je pourrais t'en citer d'autres. Mais ouais, des contradictions, j'en ai plein. Ce qui est plus rigolo, c'est les gens qui n'assument pas les contradictions. C'est souvent ça, moi, que je diffuse dans mes chroniques. C'est pas les gens qui me disent « Ouais, je sais. Je fais comme je peux, parce qu'on fait tout ce qu'on peut. » C'est les gens qui me disent « Non, non, mais c'est si je t'avais dit « Non, non, mais j'ai un iPhone, mais en fait, il a été fabriqué à côté de chez moi par un paysan. » Tu vois, c'est tout ça, toute la justification ou comment t'essayes de t'empêtrer dans le truc. Là, c'est ridicule, quoi. Mais sinon, ouais. Puis le fait d'être à France Inter peut être vu aussi comme une contradiction, parce que finalement, j'avais fait tout un bouquin sur le Triboulet, qui était le bouffon de François 1er, ou comment, finalement, un bouffon, ça cautionne la structure de domination, quoi. Parce qu'on te dit, ouais, vas-y, tiens, t'as 5 minutes, vas-y, tu peux dire des conneries sur Macron si tu veux. Puis pendant ce temps-là, on a 23 heures d'émission où on dit quand même cette réforme, elle est mesurée, etc. Donc ça joue aussi, tu vois. Rien n'est tout à fait blanc ou noir, quoi. Je dis, à quel moment, nous, les humoristes, on permet aux gens de rigoler et du coup de les apaiser et de pas se rebeller contre les injustices qu'ils subissent. T'as déjà pensé à ça? Pardon, je t'ai foutu ta journée en l'air. Mais il y a de ça, en vrai.
Ouais, j'avoue.
Mais tu vois, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. C'est pas... Essayons une grève des humoristes, pour vous.
Je pense que personne va leur marquer.
Bon, ne faisons pas ça.
Il y aurait juste un peu plus de musique France sur France Inter.
Ouais, c'est ça, il y aura de la playlist. Ouais. Les droits sociaux.
Est-ce que tu as eu des difficultés des fois à ne pas, vu que le showbiz, le milieu des vedettes, c'est très codifié quand même. Il y a moyen de se faire de l'argent facilement et des fois de mettre ses valeurs de côté. Comment tu as fait pour jamais te laisser appeler comme ça par les sirènes?
Déjà, je le fais pas pour ça. Je le faisais pas pour ça à la base. Donc, il y a rien qui m'attire là-dedans. Je ne fais pas pour avoir des iPhones gratuits à une soirée où il y a des people, tu vois, par exemple. Ça ne m'a jamais vraiment attiré. Et je suis pas mal entouré. J'ai un producteur qui est vraiment un producteur de gauche. C'est-à-dire qu'on négocie le prix des places sur le contrat. prix de place maximum, etc. Et on se marre, là, j'ai reçu... Il y a des trucs de fou, hein, quand même. J'ai reçu un truc, c'était pas Renault, mais c'était l'industrie automobile. Ils voulaient que j'anime une demi-heure, 20 000 balles. 20 000 balles, la demi-heure. Et on reçoit le mail et tout, on s'est marré, quoi. Ils ont pas compris que j'accepte pas, tu vois.
Mais et alors, il y a tout le truc... T'as dit non parce que Renault ou parce que...
Ah, j'ai dit non, parce que je vais pas me retrouver, oui, devant des cadres de Renault à dire « Ah, dis donc, vous êtes des pollueurs, ah, ah, ah. !» Bah, je veux pas prendre.
Ouais, mais une autre façon de le voir, ça aurait été de dire je prends l'oseille de ceux qui polluent et j'en fais un truc bien.
Alors là, ok. On peut aller sur ce terrain-là. C'est potentiellement un de mes terrains préférés. Ça s'appelle de la philosophie morale. Et
oui,
un jour, j'en ferai un spectacle, je pense, de ça.
Ouais, mais c'est
d'ailleurs, c'est la différence entre l'utilitarisme et la déontologie. Et on est toujours dans notre vie, plus ou moins l'un ou l'autre. Donc, un utilitariste dira oui, ben, bah, vois les conséquences de cette action, c'est-à-dire prendre les thunes et refiler à une assos. Mais là, c'est le déontologue en moi qui a parlé, où je me dis non, je me vois pas écrire une demi-heure pour je sais plus quoi, Renault ou Peugeot et voir leur tête et je passerai un sale moment. Voilà, désolé l'assos, je ferai autre chose par ailleurs.
Désolé les pandas.
Désolé les pandas, je ferai un spectacle pour vous si vous voulez ça, et je le fais d'ailleurs, j'avais fait un truc pour L214. Ou c'est genre, venez voir mon spectacle, je refile la recette, je préfère ça, quoi. Mais c'est passionnant, hein, la philosophie morale, c'est sans fin.
Ouais, et puis il y a quand même un risque de dire ça au début, et puis de se dire, ah putain, 20 000, c'est beaucoup quand même.
Ouais, c'est ça. Après, le troisième truc, c'est que j'ai jamais eu besoin de beaucoup de pognon pour vivre. Mmh. Donc, comme tu peux le voir, j'ai des fringues, c'est pas non plus... Tu vois, j'ai pas les grosses bagnoles, j'ai pas un énorme appart... Donc j'ai des plaisirs assez simples.
Mais tu vis à Paris,
quoi.
Donc ça coûte quand même vite cher, quoi.
Et ben non, je vis à Rennes maintenant.
Ah oui, c'est vrai, tu venais en train. Ouais. Juste.
Donc, ouais, non, ça aide aussi à ne pas avoir de gros frais.
Ok. comment tu vis qu'il y a des gens, ils ont envie de te péter la gueule?
Ça m'amuse. Souvent, je leur dis, c'est pas un énorme challenge. Hein. Parce que vraiment, le dernier qui j'ai dit ça, anecdote! Petite jingle anecdote. Suite à mon passage sur France 5, où j'ai un peu charrié les sportifs de haut niveau, il y a un triathlète sur Insta qui m'a dit, il faudrait pas qu'on se croise dans la rue. Enfin, menace, à base de menace physique, quoi. Et je lui dis, bah, effectivement, tu risques de gagner, quoi. Parce que je suis pas équipé en tout ce qui est musculation. Donc, je pense que tu vas pas me mettre longtemps à tabasser. Et il dit, ouais, c'est ça, fais ton malin, machin, tout ça. Et je dis, bon, ok, j'ai bien reçu. Et après, je lui mets juste, je me permets quand même de transmettre à un juge parce que ça reste des menaces physiques, ce que tu fais. Mmh. Et là, le gars, je te jure, je te montrerai après. Si... Le message d'après, c'est, ah bon? Ah ben, je m'excuse alors.
Après, what?
T'as tout, mais vraiment, il est marrant. Et souvent, ça, je m'amuse à répondre. J'ai un peu moins le temps de le faire en ce moment. Mais sur le WhatsApp de notre émission, France Inter, tu vois, WhatsApp comme toutes les émissions. Et je m'amuse à leur envoyer le premier message. Et le dernier message, alors ça commence souvent par fils de pute, je vais te crever ou quoi. Et le dernier, genre 20 minutes après, c'est ouais, ok, bon, désolé. Parce que dès que tu discutes avec les gens...
Donc leur rage, tant qu'elle est dirigée vers quelqu'un d'un peu inaccessible,
c'est
d'un
ça.
Peu...
Ouais. Dès que tu réponds, déjà, ils vont dire, ah bon, tu réponds. Bah quand même, ta chronique. Je dis, bah dis-moi juste ce qui t'a pas plu et... J'en sais rien, on n'est pas d'accord.
En fait.
Moi, j'aime bien trouver notre point de désaccord. J'aime bien être d'accord sur nos désaccords. Donc ça, c'est, tu vois, tu dis, ah bon, bah là, oui, tu penses ça. Moi, je pense ça. Bon, là, on va pas se retrouver. Donc, voilà. Mais au moins, on sait là où on n'est pas d'accord.
Mais t'as jamais eu peur?
Non.
Je pense que c'est ça qui agace le plus. C'est que t'es pas peur. C'est que ça marche pas. Y a pas...
J'étais à un meeting de Zemmour, là, au Trocadéro. C'était fou. Mais je vois ça comme une expérience anthropologique, quasi, tu vois. Et t'as des mecs qui m'insultent. Alors, c'était pas le meeting où il y a eu la baston. Donc je pense qu'ils étaient un peu fébriles, ils voulaient pas qu'il y ait de débordement. Donc il y a un gars qui me suivait, je le voyais qui me suivait de loin, en mode si ça part en couille, je vais calmer mes troupes, quoi. C'était pas hostile, tu vois, il m'a laissé bosser et tout. Ils m'ont filé une accrède, hein, tu vois, ils m'ont dit vas-y, avec un petit sourire en coin de ouais, bah, vas-y. Et il y a deux trois mecs qui m'ont insulté de loin et j'ai dit bah viens le dire au micro, moi ça me fait du son, tu vois. C'est quasiment une faute professionnelle si je me fais pas insulter au meeting de Zemmour. Et les gars, ils venaient pas, quoi. Il dit, ben non, allez, gaucho, machin. Je dis, bon, bah, c'est dommage. Moi, je veux bien discuter avec toi. Mais... Et j'ai un bon souvenir aussi. Il y a une manif pour tous. Un mec qui m'a interrompu. J'étais en train de faire une interview. Il me dit, ouais, t'es payé combien pour faire ta pute à France Inter? Et du coup, j'avais dit, ben, 200 balles, parce que j'étais à 200 balles, j'ai dit, ça devait être 250 aujourd'hui, je crois. Et il m'avait dit, ah bon, c'est tout? Oh. Évidemment, je l'avais gardé. Et j'avais dit, bon, ben, message à la direction, il y a les fachos, ils pensent que je suis pas assez payé, hein. Donc voilà. Mais non, les coups de pression me dérangent pas.
Ok.
Dans le sens où, si tu veux me casser la gueule vraiment, bah, tu vas me casser la gueule, mais je vois pas trop le gain que tu vas avoir. Je dis toujours, mais je me défendrai pas, moi. Ça va vraiment être nul comme action. Mais fais-le, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Pète-moi la gueule. Mais, même toi, après, tu vas te dire, bon.
C'est tout.
Je vais. Puis après, je ferai des selfies sur les réseaux sociaux en disant, regardez, je suis un martyr de la liberté d'expression. Aurore Berger sera obligée de faire un tweet en disant, non, quand même, les humoristes sont sacrés dans le pays. Je vais pas aller, résonne en conséquentialiste. J'aurais été résonne en utilitariste. Je conseillerais aux gens qui veulent faire ça.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez suivre Guillaume Meurice sur les réseaux, allez le voir sur scène ou commander Petit Éloge de la Médiocrité. Eh bien, tous les liens sont dans la description. Si vous écoutez Les Gens qui Doutent pour la première fois, eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous avez 60 épisodes à rattraper, notamment avec Alex Vizorek, Clément Viktorovitch, Marina Rollman, Lou Doyon, Paul Mirabel et plein d'autres gens très très chouettes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne rien rater des prochaines sorties. Et puis évidemment, vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux, Fanny Ruet, pour des podcasts, des blagues, des chroniques et plein d'autres trucs. Des bisous. Cet épisode a été mixé une fois de plus par l'incroyable, le très beau Maxime Wathieu.
Parce que j'ai une grande gueule.
T'as une grande gueule, ouais. Tu es très désagréable, Guillaume.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.